Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Acteur de changement, il est tourné vers l'innovation. Il ne se contente jamais de peu. Il pousse l'information dans les moindres détails. Guillaume Lavoie.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Bienvenue à Cube Radio. Merci d'être à l'écoute. Justement, 22 novembre, c'était le jour où John F. Kennedy, le président Kennedy, a été assassiné. Et alors qu'on va probablement se réintéresser à sa mort ou l'histoire du crime ou les conspirations ou autres, notre intérêt devrait être ailleurs. Ou en tout cas, il y a quelque chose ailleurs sur ses legs, sa vision, l'ambition qu'il nous présentait. Et plus je me réintéressais, je relisais ses discours, son discours inaugural qui est absolument grandiose, plusieurs autres aussi, plus j'avais l'impression que ceci aurait pu être écrit hier ou avant-hier, était parfaitement d'actualité. Imaginez, ce discours-là, son discours inaugural, était uniquement dédié à la politique étrangère, quelque chose qui n'est jamais arrivé avant dans les discours inauguraux et jamais arrivé après. Parle, entre autres, de thèmes parfaitement ou des enjeux planétaires, que ce soit l'environnement, la paix, les maladies, l'énergie. On a l'impression d'être dans un contexte où qu'est-ce qu'on fait avec la Chine, qu'est-ce qu'on fait avec le Qatar, qu'est-ce qu'on fait avec le conflit Ukraine-Russie. Et peut-être qu'on a encore besoin de Kennedy pour se guider là-dedans. Parce que dans toute sa carrière, il y avait une espèce de matrice de valeurs universelles, des droits humains, là je le cite, qui viennent du créateur ou de la condition humaine elle-même et qui sont pas fonction de la générosité du gouvernement du moment. Je parlais de Chine, de Russie, du Qatar, je pourrais parler de la Turquie. C'est cette idée que les droits humains ne sont pas fonction de combien un gouvernement est gentil ou pas, mais plutôt de la seule condition humaine. Même chose, Kennedy avait cet humanisme universel. Et lorsqu'il parle à Berlin, il dit, parce que Berlin qui est encore emprisonné, Berlin-Ouest, « Tant qu'il n'y aura qu'un seul de nous qui ne sera pas libre, nous ne serons pas libres. » C'est cette vision générale que des valeurs doivent être propagées à l'ensemble de la planète et d'être pas naïf dans cette volonté-là, de parler à ces fameux régimes que l'on pourrait considérer hostiles. Et il dit « Il ne faut pas les tenter par notre faiblesse. » Et regardez la dernière décennie où on a abandonné l'OTAN, où on considérait que ça valait plus la peine d'avoir des budgets militaires ou d'avoir des préparatifs. Eh bien, ça a donné des incitatifs, volontaires ou involontaires, à tous les petits dictateurs de la planète, à tous les Poutines de ce monde, pour dire, ben, pourquoi est-ce que je pourrais pas empiéter sur la liberté des autres puisque les autres ne se préparent pas? Puis finalement, d'être capable pour voir plus loin, pour être capable de trouver des zones de solutions, des zones de travail commun, de jamais accepter de négocier dans la peur, mais non plus de jamais avoir peur de négocier, parce qu'à la fin, le pire ennemi de la condition humaine, les ennemis communs de la nature humaine, c'est la tyrannie, la maladie, la peur et la guerre elle-même. Et c'est là où Kennedy est à la fois éternel et profondément actuel. Puis je vous laisse sur cette idée. Lorsque, par exemple, il fait dans son discours sa fameuse phrase « Ask not », de ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, ou encore dans la conquête spatiale, lorsqu'il dit « Nous choisissons d'aller sur la Lune », non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Et c'est uniquement lorsqu'on se confronte à des défis qui nous semblent impossibles qu'une nation est capable d'organiser ses énergies et se tester pour le meilleur d'elle-même et de refuser de passer à la génération suivante des choses qui devraient lui appartenir. Quand j'entends ça, Je regarde ce qui se dit à Ottawa. Je regarde ce qui se dit à Québec. Où est ma conquête lunaire? Où sont nos Kennedy? Il y a peut-être là-dedans pas seulement un exemple historique, mais quelque chose qui devrait nous animer, nous faire rêver, nous motiver, orienter nos énergies au quotidien.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
Grand vulgarisateur, Guillaume Lavoie analyse le monde. Analyse le monde dans tous ses états.
On apprend presque à l'instant dans le Journal de Montréal que l'ancien leader des Hells Angels, Salvatore Casetta, a été, et là je le mets entre guillemets, mis à la retraite par sa gang de motards. Et c'est selon les informations obtenues par le bureau notre bureau d'enquête. Alors, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire être mis à la retraite, moi, je me questionne à savoir, est-ce que c'est une retraite bien payée? Est-ce que c'est une retraite avec contribution garantie ou à prestation déterminée? Allons rejoindre Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Bonjour, Éric.
Bonjour, Guillaume.
Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, moi, j'étais très surpris. Les Hells Angels ont un programme de retraite, mais là, on comprend que retraite, c'est un mot gentil pour pouvoir peut-être comprendre exclu, là.
Oui, c'est... on n'a pas les termes exacts là, de son plan de retraite là, officiel, mais faut savoir que un des derniers Hells Angels qui est parti à la retraite comme ça, on lui garantissait une prime généreuse, là, quelque chose comme 10 000 $ par mois. Là.
Alors, ça ressemble à une prime au silence, ça se peut-tu?
C'était pas mal du tout. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour le silence mais ou pour service rendu. Mais toujours est-il que M. Casetta, oui, on a appris ça avec mon collègue Félix Seguin du bureau d'enquête, que au cours des toutes dernières semaines, là, derniers jours, on l'a, disons, fortement incité à quitter le club. On s'avance pas à dire que c'est une expulsion du club, comme un autre ancien chef des Hells Angels, Maurice Mambouché, en avait fait des frais là, en 2014. M. Casetta, lui, dirigeait les Hells Angels depuis, mon Dieu. Entre 2011 et 2016, là, assurément, c'était lui le leader, le numéro un des Hells Angels. Et puis, au cours des derniers mois, faut savoir là, que ça bouge beaucoup dans les hautes sphères du crime organisé présentement. On ne sait pas pourquoi exactement, on ne sait pas, vous vous souvenez certainement, il y a un peu plus tôt cette année, là, il y a eu un tueur à gage du crime organisé qui s'appelle Frédéric Silva, qui a retourné sa veste et qui a accepté de collaborer avec la police pour permettre à la police de résoudre des meurtres. Plusieurs dizaines de meurtres dans le domaine du crime organisé. On ne sait pas si c'est lié à ça, mais ce qu'on entend dans le milieu policier, là, qui sont bien informés et qui sont bien branchés là, sur le crime organisé, c'est que il y a des changements de les sphères d'influence sont en train de se modifier. Et puis, Casetta, c'est quelqu'un qui était considéré là, comme un des acteurs les plus importants, les plus influents là, dans le crime organisé à Montréal.
Mais justement, Éric, explique-nous ça, parce que d'abord, on a vraiment l'impression que si tu nous parles presque d'un monde et finalement d'une organisation humaine, là, en politique, on appellerait ça une révolution de palais. Disney vient de mettre dehors son CEO pour ramener l'autre d'avant. Parle-nous de Salvatore Casetta. Il est qui, lui, dans l'écosystème? Et si on lui demande de se tasser, ça doit être parce qu'on pense que lui ne peut plus faire la job ou que quelqu'un d'autre serait mieux placé pour la faire. Qu'est-ce qui est... D'abord, Casetta, il vient d'où? Là? C'est quoi son histoire à lui?
Casetta, il faut faire un petit résumé de son pedigree. C'est quelqu'un qui est né dans le quartier Saint-Henri à Montréal, qui, selon là, des décisions de la Commission de libération conditionnelle du Canada, qui a toujours trempé là, dans le domaine là, du trafic des stupéfiants, du marché de la drogue. Et puis, dans les années 80, il a même côtoyé Maurice Mangouffé dans un gang de motards qui s'appelait les SS de Pointe-aux-Trembles. Ils ont pris des chemins.
Original, comme nom?
Ouais, oui, c'était assez. Vous comprenez que c'était pas un club qui était très inclusif. Boucher et Cazetta ont pris des directions opposées à la fin des années 80. Boucher a intégré les Hells Angels, puis Cazetta. Lui, à cette époque-là, vous vous souvenez de la purge, la fameuse purge de Lennoxville en 86. Les Hells ont décidé d'éliminer un chapitre complet qui était le chapitre de Laval, qui s'appelait le chapitre North. Et puis, c'est parce que ces gars-là étaient consommaient trop de drogue, c'était pas bon pour les affaires.
Faisaient trop de troubles, pas assez de discipline. Bref, c'était du crime trop désorganisé. Alors, on voulait remettre un peu de sérieux là-dedans.
Ils avaient éliminé tous les membres de ce chapitre-là à l'intérieur. Ils avaient convoqué à une fausse rencontre. Ils avaient tué par balle à l'intérieur du bunker des Hells de Sherbrooke. Il avait jeté leur corps dans le fleuve. Et Cazetta, lui, ce que les Hells avaient fait, ça le répugnait. Il avait dit, moi, je veux rien savoir des Hells. Alors, il a fondé son propre groupe de motards en 1989, qui était les Rock Machines. Les Rock Machines, on s'en souvient, dans les années 90, c'est
Attends,
le groupe.
Éric, ce que tu nous expliques là, c'est que toute l'histoire des Hells puis des Rock Machines, espèce de deux bandes rivales, tout ça part de cette espèce de révolution de palais digne d'Hollywood, de Lennoxville.
Ben non, pas vraiment. En fait, ce que j'allais vous dire puis vous ajouter le bout qui manque, c'est que Cazetta a fondé les Rock Machines. Les Rock Machines étaient un groupe de motards comme parmi tant d'autres à ce moment-là. Il y avait leur pointe de tarte dans le marché. Ils faisaient leur affaire. Cazetta, en 93, il a été arrêté pour un complot d'importation de 200 kilos de cocaïne aux États-Unis. Il a été extradé en Floride. Et l'extradition de Cazetta en 94 a ouvert la porte. On dit là que c'est ça qui a convaincu Maurice Mamouffé de déclencher la guerre des motards, puis d'essayer d'éliminer la concurrence, puis de faire en sorte que les Rock Machines, s'ils voulaient pas se rallier aux Hells, ben on allait les éliminer. Puis pendant tout le temps de la guerre des motards qui a fait au-dessus de 160 morts au Québec entre 94 et 2002, ben Salvatore Cazetta, lui, n'a pas pris part à cette guerre-là parce qu'il était incarcéré. Alors, à la fin de la guerre des motards, les membres les plus influents des Rock Machines se sont fait offrir de devenir des membres des...
De passer à l'Ouest, là. Mais
c'est ça, exactement. Et c'est ça qui est arrivé à Cazetta en 2005, quand il a été finalement libéré de pénitence.
Éric, dernière question. Est-ce que c'est possible d'être un Hells à la retraite? Ou plutôt, c'est-tu possible d'être un Hells à la retraite longtemps? Ou à la fin, on se dit que je peux payer 10 000 $ par mois ou il y a d'autres manières pour mettre fin au paiement de la retraite? Est-ce que ça se peut de faire une retraite tranquille quand tu es un Hells?
Bon, les avis sont partagés, puis je vous dirais que il y a des délateurs qui ont dit tu peux prendre ta retraite des Hells, mais tu seras toujours redevable aux Hells. C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que Cazetta était quelqu'un qui était encore très, très influent, qui avait ses amis, qui avait ses alliances au sein du crime organisé avec d'autres factions, au sein de la mafia montréalaise, au sein de la pègre sauf-irlandaise, par exemple. Et ces alliances-là sont fragilisées ou n'existent plus, et ça explique pourquoi on l'a amicalement invité à quitter. Et bon, est-ce à dire qu'il sera plus dans le décor? Généralement, quand les Hells te disent t'es plus dans la gang, mon gars, ben tu reviens pas.
Ouais.
Il a 68 ans le mois prochain, fait que je pense qu'il peut partir à la retraite sans problème.
Ouais. Alors, j'ai entendu les mots amicalement invité à quitter. Je pense qu'on doit avoir franchi les frontières de l'euphémisme plusieurs fois. Éric Thibault, journaliste du Bureau d'enquête de Québécois, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça va faire plaisir, Guillaume. Merci.
Au revoir.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Bonjour, Marie.
Allô, Guillaume.
Bon, alors, Marie, là, on comprend que on est à la limite là, du sevrage. L'Assemblée siège pas. Ça manque à plusieurs. Mais ça se passe dans quoi, là? C'est dans une semaine que l'Assemblée va siéger à Québec, là?
C'est dans une semaine, jour pour jour, que notre calendrier de l'Avent parlementaire prend fin, parce que c'est mardi prochain que reprennent, que c'est la rentrée parlementaire, dans le fond, que reprennent les travaux à l'Assemblée. Mais, tu sais, gère tout de suite. Et déjà, il reste beaucoup de choses à gérer d'ici là. Et c'est des premières journées qui sont quand même assez tranquilles. Donc, parlons de ce qui reste à gérer d'ici là.
Ouais.
C'est toute la question encore et encore et encore. On sait qu'on en a parlé beaucoup, mais de la reconnaissance des groupes parlementaires. C'est pas terminé tout ça, à savoir si le Parti québécois, tu te rappelles, là, en ce moment, ils ont à peu près une question par semaine.
Ouais.
Là, on entend que les autres partis mettraient peut-être un peu d'eau dans leur vin, dont le PLQ, ce qui ferait peut-être passer à deux questions par semaine. Mais en tout cas, on y est, parlant de mettre de l'eau dans notre vin, je pense qu'ils sont encore loin de la coupe aux lèvres, mais tic-tac, tic-tac, tic-tac,
mais
il reste une semaine pour régler ça, c'est
Marie,
pas beaucoup de temps.
Là-dessus, là, peut-être que, et loin de moi de porter ombrage à l'importance du Parlement, mais mes atomes institutionnalistes m'en empêcheraient, mais il reste que je peux comprendre qu'avant, la seule véritable voie très efficace de l'opposition, c'était de poser des questions au gouvernement. Aujourd'hui, avec la capacité de pouvoir presque se mettre de l'avant directement avec les canaux, avec les différentes plateformes, avec YouTube et autres, quelqu'un peut presque se créer sa propre période de questions puis la diffuser vastement, là. Puis peut-être avec des codes d'écoute supérieurs à celles des périodes de questions à l'Assemblée nationale. Alors, je me disais, il y a le nombre de questions, mais peut-être le plus important, c'est le budget de fonctionnement qui, là, permet d'avoir des bras puis des cerveaux pour préparer, faire des recherches, etc. Parce que d'avoir du temps pour poser des questions, si tu n'as pas personne pour faire de la recherche, il va t'en manquer un peu.
Et là, d'avoir des recherchistes, d'avoir des attachés de presse, d'avoir des gens qui s'occupent de tes communications, qui te permettent d'être sur les réseaux sociaux. T'as pas tort à ce niveau-là. C'est un des enjeux qui est pas réglé encore. C'est sûr que la période de questions, moi, je te dirais, c'est comme la saucisse high grade. T'sais, c'est juste si t'es, tu sais, je veux dire, plus t'en manges, plus ça existe. Si t'es pas là, si t'existes pas la période de questions, ben, à un moment donné, le risque, c'est qu'on t'oublie avec le temps. Une fois qu'on a dit ça, tu sais, sans rentrer dans le détail, il y a ce qui s'appelle le hot room, à l'Assemblée nationale, qui est une pièce extraordinaire. Quand tu sors de la période de questions, tout député peut aller là à tout moment et prendre la parole. Puis ça s'appelle le hot room. Je vais t'expliquer pourquoi si tu ne le sais pas. C'est que tu n'as pas le droit de sortir. Quand tu décides d'y entrer pour dire quelque chose, tu ne peux pas en sortir tant et aussi longtemps que les journalistes n'ont pas fini de poser toutes leurs questions. Donc, c'est pas comme une mêlée de presse où tu peux dire bon, c'est terminé, je continue ma marche jusqu'à la période de questions. C'est là tu restes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Et c'est arrivé souvent dans l'histoire du Parlement que des élus ont eu bien, 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 bien chaud dans cette pièce. Donc, tout ça pour dire que le chef du PQ pourrait décider quotidiennement d'aller prendre la parole là ou de faire des points de presse là. Mais il manquerait quelque chose. Moi, je les comprends de tenir à ça. Est-ce que une ou deux questions? Déjà, une par semaine, c'était pas si pire, là. C'est juste que là, je pense que ça leur garantissait même pas ça exactement. Donc, il reste ces éléments-là à
régler,
à
donc,
confirmer.
Et c'est essentiellement le Parti québécois qui a pas trouvé, j'allais dire, sa chaise, mais qui a pas... Il reste à régler la situation du Parti québécois.
Qui n'est pas satisfait encore. Qui n'est pas satisfait encore, qui attend de trouver un équilibre qui va lui permettre d'exister, comme a dit Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ça, la CAQ, bon, évidemment, eux, sont très contents. Puis à la limite, parce que ce qu'il faut comprendre, j'imagine, c'est que le temps que le Parti québécois aurait de plus, il faut qu'il l'enlève à quelqu'un dans les oppositions. Et le quelqu'un, c'est beaucoup le Parti libéral du Québec, j'imagine.
Bien, c'est eux qui laissent, effectivement, tu sais, il y a 9 questions. Une bonne période de questions normales, je vais te dire, standard, c'est 9 questions. Quand ça roule comme du beurre dans la poêle, des fois, il y en a une dixième, mais c'est pas une dixième complète, là. Des fois, ça va être comme un tiers de questions. Je vais l'expliquer comme ça. Souvent, quand la foire d'empoigne pogne à l'Assemblée nationale, qu'il y a des interventions, là, on est à 8. Donc, c'est sûr que laisser une question sur la table, ça, c'est un enjeu sur 4 ans parce que là, les règles sont définies pour les 4 prochaines années. Une fois qu'on a dit ça, au-delà du nombre de questions entre nous, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose à dire. Et c'est là que ça va devenir intéressant.
Oui, parce
qu'est-ce que ces partis ont à dire?
Dans la dernière législature, Québec solidaire, c'est pas particulièrement démarqué en chambre. On sentait que c'était pas leur priorité. Peut-être que là, ça va changer. Ils ont des nouveaux joueurs un peu plus...
J'ai pas la même perspective que toi, moi, pour avoir été assis. Encore là, tu sais, c'est une bulle, hein. C'est une bulle, l'Assemblée nationale. Donc, c'est sûr que quand on y est assis, puis je les comprends, là, ils négocient, là. Puis c'est,
L'avenir du monde se joue sur la question qu'on va poser.
L'avenir du monde se joue dans les 45 minutes de cette période de questions-là. On sait très bien que c'est pas ça du tout. Ceci dit, Québec solidaire, moi, je trouve qu'ils se sont démarqués beaucoup. Gabriel Nadeau-Dubois a été un tribun, un parlementaire, très efficace. Une fois qu'on a dit ça, tu vois, ça a pas joué sur les intentions de vote tant que ça. Ils ne sont pas allés chercher des nouveaux sièges. Donc, tu sais,
non, mais
c'est
ça permet de voir là, puis de sentir le sang, là, c'est-à-dire quel ministre est dans le trou puis lequel on vise. Mais là, ce qui m'intéresse, et je veux t'entendre là-dessus, c'est ce que les gens savent peu, c'est qu'à l'intérieur des partis d'opposition, c'est pas toujours un parti parfaitement uni. Tout le monde, tu l'as dit, il n'y a que X questions. Alors, est-ce que moi, je vais pouvoir poser ma question? Est-ce que moi, député qui veut me faire voir, je vais être dans les premières questions, parce que c'est à peu près juste ça que les gens regardent. Alors, est-ce que je vais pouvoir avoir mon 5 minutes de gloire? Et là où ça risque d'être particulièrement difficile, c'est au Parti libéral, parce qu'évidemment, ils sont plus nombreux. Il y a des nouveaux qui veulent se positionner, avoir une chefferie. Les gens ont des responsabilités. Ils veulent avoir... ils veulent être dans le spotlight, comme on dit. Et là, je suis pas sûr, moi, que Marc Tanguay va avoir beaucoup de facilité à imposer son leadership en disant « Non, c'est pas toi qui vas poser la question, c'est l'autre. » Parce que c'est déjà difficile, normalement. Avec une course de leadership en plus, ça devient presque impossible à gérer, là.
Ben écoute, c'est le leader en fait qui fait ces attributions là de questions. Tu sais, c'est sûr que normalement il y a une discussion si on veut entre l'équipe du chef et l'équipe du bureau du leader, mais là c'est le nouveau leader Monsef Deragy qui se retrouve vraiment à gérer tout ce qui est travaux parlementaires et tout ce qui est période de questions. Ça, c'est sa première fonction comme leader. Donc, tous les matins, le leader fait ce qu'on appelle un dry run, une répétition. Et lui, il a identifié, selon l'actualité du jour, selon des ministres qui vont être dans l'embarras, qui ont besoin de répondre à certaines questions, c'est lui qui va identifier généralement, 5 porte-paroles. T'as le chef, en fait, qui va toujours poser la première question. Le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay dans ce cas-ci, puis après ça, il va avoir 4 porte-paroles qui vont être identifiées en fonction de l'actualité du jour ou, comme je te dis, des questions qui doivent être posées au gouvernement qui pourraient venir les déstabiliser. Ouais. Et donc, c'est lui qui doit faire ces attributions-là et c'est là qu'on va voir si un leader est efficace ou pas en fonction de la performance de son parti en période de questions. Ouais, donc, la pression est grande pour Monsef Deragy, beaucoup de nouveaux, comme tu dis.
Et du bonheur ambiant dans ses décisions, là, parce que des fois, on attribue les questions aussi pour être sûr que tout le monde reste heureux là-dedans. Bon, Marie, toi, tu l'as vécu.
Oui, puis là... Oui, non, vas-y. J'allais dire la période, tu vois, la session parlementaire, elle va être très, 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 très courte. Hein. C'est 2 semaines intensives, donc c'est 8 jours et c'est seulement 6 périodes de questions parce que les 2 premières journées vont être consacrées au discours inaugural du premier ministre, au discours de réplique des chefs de l'opposition. Vont s'en suivre un paquet de discours de réplique des 122 autres députés s'ils souhaitent prendre la parole. Ça va être l'élection de la présidente ou président président de l'Assemblée nationale, on verra si c'est Mme Nathalie Roy, de tous les présidents de commission et de vice-présidents de commission parlementaire. Donc, c'est pour les députés, il y a quelque part où il y a beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup de nervosité dans cette entrée en chambre, mais en même temps, il y a toute une partie qui est très longue, très, très plate de tenir des quorums pour s'assurer que la chambre
puisse siéger. C'est de faire du temps. Mais là, dis-nous, parce que toi, tu l'as vécu, entre quelqu'un qui devient ministre, là, ils sont chanceux, les ministres, parce que imagine quand t'es nommé entre deux élections, t'es nommé le mardi soir puis le mercredi matin, bienvenue à la période des questions. Mais là, qu'est-ce qu'ils font les ministres entre maintenant puis le début de la chambre, là?
Ils essaient ils prennent connaissance de leur dossier. Tu vois, moi, effectivement, je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'ai été nommée ministre dans un remaniement ministériel. Donc, j'ai été nommée assermentée un jeudi. Ça va vite, là. Tu sais, t'es assermentée. T'apprends que t'es ministre, t'apprends ton dossier, on te présente ton chef de cabinet, ton attaché de presse, t'as ton premier conseil des ministres, ton premier point de presse. Et le mardi matin, il faut que tu sois prêt à répondre à toutes les questions. Moi, j'avais donc la culture, mais j'avais tout le dossier de la langue aussi, tout ce qui inclut le patrimoine. J'avais.
Marie, c'est tout des dossiers faciles, ça. C'est pas compliqué, là.
C'est tout des dossiers faciles. On glisse jamais, jamais, jamais sur des questions de protection de la langue. Et j'avais devant moi trois porte-parole à la langue au Parti québécois, parce qu'il y avait Pascal Bérubé, il y avait Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, et il y avait Maca Cotto. Ils avaient les trois des attributions en langue. Donc, écoute, ça peut venir d'un peu partout. C'est super stressant. Là, les ministres, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'ils auront eu un mois pour prendre connaissance de leur dossier. Donc, ils ont eu des tonnes et des tonnes de brefages avec leurs sous-ministres adjoints pour pouvoir comprendre tout leur dossier, pour pouvoir poser toutes les questions. Ils se sont fait monter des gros énormes cartables aussi avec toutes les possibilités de questions qui pourraient être posées, avec des lignes d'attaque, avec des réponses, avec des éléments aussi pour répondre. Ça va très vite, hein, une paire de questions. On a grosso modo une minute pour poser une question, une minute pour répondre. Ceci dit, moi, si j'étais à leur place, les nouveaux ministres, je pense pas qu'ils ont à être très nerveux. Comme je dis, c'est 6 périodes de questions. Je pense que ça va être beaucoup les vétérans qui vont être questionnés, ministre de la Santé, ministre des Finances, ministre de l'Économie qui sont...
Puis là, mais tu sais,
exactement, Christian Dubé et compagnie qui ont déjà un petit peu de mélange dans le corps.
Marie, tu vas voir à la fin, moi je recommande toujours l'approche Henry Kissinger. Bonjour, est-ce que vous avez des questions pour mes réponses? Alors c'est ça qu'on va voir pour la suite. Merci beaucoup Marie Montpetit, on se reparle demain.
Demain.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Passionné d'histoire, il raconte l'information du monde d'hier à aujourd'hui, une page à la fois. Guillaume Lavoie.
Vous avez probablement vu que ça n'a pas tellement été une bonne semaine ou un bon mois pour Elon Musk, cette espèce de mogul qui est à la fois présent dans l'exploration spatiale, la révolution des véhicules électriques, et il y avait du temps libre dans ses fins de semaine, fait qu'il s'est mis à tweeter de manière absolument réelle. Mais là, il y a une déconfiture financière majeure, et pour essayer de voir un peu à quel point c'est important, parlons à Alain Mekena, journaliste au Journal Le Devoir, qui s'occupe entre autres de l'actualité économique et technologique. Bonjour, M. Mekena.
Bonjour, Guillaume.
Alors, Alain, dis-nous, c'est grosse, grosse mauvaise semaine pour Elon Musk, mais dans mon souvenir, Tesla valait presque plus que les autres compagnies automobiles. Mais là, beaucoup disaient qu'on était sur de... Je dirais, c'était soufflé à l'hélium, là. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer, là?
Ben, c'est une combinaison de choses, mais effectivement, la valeur d'intrinsèque concrète de Tesla n'était pas reflétée exactement par sa valeur boursière qui était vraiment supérieure à ce qui normalement serait calculé par un analyste financier. Là, et bien des gens le disaient, il y avait un effet d'engouement. Tesla, c'est à la fois une société automobile et une société technologique, et le secteur technologique, depuis quelques années, était lui aussi un peu survalorisé en bourse. Là. Donc Tesla nécessairement n'échappe pas là, à la tendance actuelle. Depuis à peu près le début de l'année, là, les technos en général se sont vraiment beaucoup dégonflés. Tesla est évidemment prise dans le mouvement, peut-être un petit peu plus parce que bon, Tesla est aussi une société automobile et dans cette automobile aussi, il y a des défis. Puis là, ben clairement, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de magie non plus. Quand on construit une voiture, ça prend des pièces. Quand il manque de pièces, on construit moins de voitures, on livre moins, les revenus sont moins élevés. Les projections pour l'année à venir, Tesla, comme Toyota, comme tous les autres, là, sont pas aussi optimistes. En tout cas, ils sont pas aussi élevés que ce qu'on prévoyait il y a quelques mois à peine déjà.
Mais là, je lisais, puis tu vas nous confirmer ça, que Tesla aurait perdu plus que la moitié de sa valeur en bourse, c'est bien ça?
C'est oui.
Et donc, une grosse partie de la fortune d'Elon Musk est en action de Tesla. Alors, c'est quel impact sur son portefeuille à lui?
Là? Ben, c'est qui? Ben, évidemment, c'est un impact indirect dans la mesure où c'est pas de l'argent qui peut sortir si simplement que ça en entier. Évidemment, il y avait d'ailleurs un plan de compensation en tant que président directeur général de Tesla qui était assez généreux, là, mais cela dit, c'est une valeur qui lui permet ensuite d'aller chercher de l'argent ailleurs. C'est un peu en s'appuyant là-dessus qu'il a convaincu d'autres investisseurs, entre autres, de l'aider pour acheter Twitter. Donc, c'est pas nécessairement de l'argent qui est sorti entièrement de sa poche. Mais ça reste quand même un certain niveau assez théorique, là, dans le sens où il n'y a pas, tant qu'il liquide pas ces actions-là, c'est pas une valeur qu'il a, c'est pas de l'argent qu'il a en banque, là, donc c'est pas, ça affecte pas nécessairement ses activités.
C'est ça, on fait souvent ce mauvais calcul, un peu comme, là j'allais dire moi, mais on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, là, mais quand tu recomptes, évidemment, toi, Alain, tu es au devoir, alors toi, tu pourrais peut-être être dans ces proportions-là, mais on imagine quelqu'un qui regarde son état de compte puis qui dit, oh mon Dieu, j'ai fait 20% de plus ou j'ai perdu 20%, t'es pas plus riche ou plus pauvre tant que tu as pas décaissé. Alors, en gros, là, c'est de l'argent qui n'existe pas, là.
Il y a un petit peu de ça, puis effectivement, les gens qui ont acheté des bitcoins il y a un an, ils sont dans la même situation, ils ont perdu une grosse partie de ce qu'ils avaient mis dans le bitcoin, puis ben, c'est, si jamais le bitcoin, par exemple, rebondissait, ce qui apparaît, c'est une autre conversation, là, mais ça apparaît très peu possible, très peu probable, ben, ça serait, effectivement, on n'en parlerait plus. Tesla est dans une situation où il fabrique des voitures, peut-être pas en grand volume, peut-être pas en volume comparable à ce que GM, Ford ou d'autres font. Donc, nécessairement, ça vaut. Faut déterminer qu'est-ce que ça vaut. Il y a un potentiel à Tesla si le marché s'électrifie. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le marché s'électrifie peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait à l'échelle mondiale. Là, au Québec, c'est une autre conversation, encore une fois.
Oui, mais as-tu le sentiment, Alain, que ce que Tesla a, puis évidemment que le design est intéressant, et ça me fait penser quand Bombardier avait inventé le jet régional, là, c'est-à-dire que ceux qui faisaient des petits avions essayaient de grossir, ceux qui faisaient des gros avions essayaient de les rapetisser, puis Bombardier est arrivé, puis a dessiné à partir d'une page blanche, voici ce que ça devrait avoir l'air, un avion court ou moyen court pensé pour ça. Et ils ont bouffé le marché, ils ont été extraordinaire là-dedans, un peu comme quand Elon Musk a inventé la voiture électrique. Il a pris aucun des codes de l'industrie, il a fait quelque chose complètement à côté. Mais beaucoup de la force de Musk était justement qu'il était une machine à succès, là. Et c'était un peu comme les produits Apple. Ce que les acheteurs de Tesla avaient de plus que les autres, c'est qu'ils étaient vendus avant même de voir le produit, parce qu'il y avait une identification extraordinairement forte à la marque. Mais là, la marque de commerce de Tesla et de Musk n'est plus exactement ce qu'elle était, surtout dans la mésaventure Twitter. C'est pas clair comment tout ça va finir, mais à date, ça va particulièrement mal. Est-ce que le caractère fabuleux de Elon Musk s'effritant, ça n'aura pas quelque part un impact sur les ventes de Tesla? Parce que est-ce que je veux encore appuyer Musk? Est-ce que je veux m'identifier à lui? Il y a des gens qui quittent Twitter, est-ce qu'ils s'achèteraient aussi des Tesla? C'est le danger quand il y a une adéquation entre un produit et une personnalité, là.
Ben, c'est sûr que la marque Elon Musk a perdu beaucoup des plumes qu'elle avait là, dans les dernières 2-3 semaines. Je serais curieux de voir à quel point ça affecte la perception qu'on a de la marque Tesla. Tesla, un des problèmes, et ça fait quand même plusieurs, ça fait un petit bout de temps que les analystes en parlent, c'est que, tu sais, là, il y a un camion, un semi-remorque qui s'en vient, il y a le fameux pick-up qu'on veut lancer éventuellement au cours des deux prochaines années. Il y a cette recherche aussi du véhicule, parce qu'il y aurait peut-être un nouveau modèle plus abordable qui serait dans les plans. On étire beaucoup, beaucoup la sauce chez Tesla, et c'est ça qui est risqué, c'est que pour une entreprise comme celle-là, qui, faut le dire, ça reste une niche, là, même si on souhaite que le marché au complet d'automobiles s'électrifie à terme. En ce moment, c'est très niché. Et cette volonté de s'éparpiller, c'est très risqué. La plupart des entreprises qui l'ont fait, souvent, ont fini par se casser les dents et sont revenus à leur créneau d'expertise. Est-ce que Tesla, c'est une marque de véhicules au sens très large de mobilité électrique, incluant les camions commerciaux ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est une marque de luxe de voitures à haute valeur technologique et électrique qui serait capable de concurrencer avec Mercedes-Benz? C'est là où bien les analystes vont dire ben il faudrait finalement que Tesla le décide et qu'elle prouve qu'elle peut faire
à un moment donné le marché finit, parce que le marché n'est pas du tout rationnel, le marché est influencé par des modes. Moi, je me souviens quand Alcan faisait du papier, du saran wrap, c'était l'idée de on se diversifie, puis comme ça on est des génies de la gestion, ça a fait patate. Mais le marché va-t-il... Est-ce qu'on est rendu à la limite de la tolérance du marché, des actionnaires surtout? Parce que là, Elon Musk, il y a des grosses semaines. Oublions Twitter. Deux jours par semaine, il est sur le plancher de l'usine de Tesla. Deux autres jours par semaine, il est sur SpaceX. Il y a aussi son autre projet, Solar City. À un moment donné, penses-tu que l'actionnariat va dire « Ben moi, je considère comme une vulnérabilité potentielle, comme une faiblesse potentielle, comme un risque » que le CEO, le leader supremo, l'idéateur en chef de tous ces projets-là, soit complètement éparpillé?
Bien, c'est sûr que ça a déjà été demandé au niveau de l'actionnariat chez Tesla. Il y a des actionnaires plus ou moins mineurs qui ont déjà dit peut-être qu'on devrait avoir un autre genre de gestionnaire rendu à un stade où Tesla n'est plus en émergence, c'est vraiment rendu une entreprise établie qui doit gérer sa croissance différemment. Être dirigeant d'entreprise, selon l'âge de l'entreprise et où elle se situe dans son marché, c'est pas le même genre de qualité qui est nécessaire. Effectivement, Tesla est dans une situation, SpaceX est complètement ailleurs, ça demande un autre genre de d'habileté pour gérer une entreprise comme celle-là. Twitter, c'est encore complètement d'autres choses. Ce serait prévisible qu'on voit dans les prochains mois, prochaine année peut-être, là, des actionnaires, des plus activistes, disons, qui demandent des changements à la tête de nous, là, de ces entreprises-là. SpaceX, c'est une entreprise privée, donc une situation particulière où ça joue pas nécessairement comme Tesla qui est en bourse. Twitter a été retiré de la bourse aussi, donc est un peu dans la même situation. Mais il y a quand même des gens qui ont prêté des sous à Elon Musk dans les deux cas qui vont même vouloir peut-être avoir plus d'équitabilité ou de gouvernance ou peu importe. Là.
Puis Alain, si la pression vient pas des actionnaires, ce qui serait normalement le vecteur de pression premier, mais là, Musk en possède une bonne partie. La pression, on le voit chez Twitter, vient entre autres des annonceurs ou entre autres pour SpaceX. Il pourrait y avoir une pression très forte des donneurs d'ouvrage. Musk n'envoie pas des fusées dans l'espace juste pour le plaisir. Là, il y a un marché pour aller porter des satellites dans l'espace. Si les différents donneurs d'ouvrage, qui sont essentiellement des gouvernements, disent « Je suis pas sûr que j'ai le goût de te donner un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars si tu passes 40 % de ta semaine sur d'autres choses que ce qui m'importe moi. » Ce qu'on appelle dans le monde de l'investissement l'alignement d'intérêts. Ça, peut-être qu'il va y avoir un réveil, mais faisons un peu de prospective juste pour s'amuser, Alain. Très souvent, dans l'histoire des super startups, le fondateur-idéateur finit par se faire tasser parce qu'il n'y a pas nécessairement la boîte à outils ou les qualités qui sont celles d'un dirigeant qui n'est pas celui qui a fait la première partie du chemin. Là. C'est arrivé chez Uber, c'est arrivé, mon Dieu, à peu près partout. À Ford s'est fait faire le coup plusieurs fois, Henry Ford. Est-ce que c'est quelque chose où il y a un scénario où Musk, c'est arrivé à Steve Jobs également, est-ce que Musk pourrait se faire mettre dehors de sa propre compagnie à un moment donné?
Ben, c'est pas impossible. Faut dire que Tesla n'est pas né à cause d'Elon Musk. Musk est entré très tôt dans le portrait, mais il y avait déjà les trois dirigeants qui étaient sur place et qui étaient en train de développer la machine. Et c'est un peu la même chose avec SpaceX. Et évidemment, Twitter, c'est une autre conversation, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y avait une lassitude des investisseurs, des gens impliqués dans les entreprises que Musk gère, et ça va peut-être entraîner un désir de changement. Ça, il n'y a aucun doute. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce que Elon Musk fait en ce moment avec Jeff Bezos chez Amazon, qui lui a senti le besoin de prendre du recul avant qu'on lui dise. Lui, il a vraiment quitté comme au sommet d'Amazon, disons-le comme ça. Et le contraste pourrait nuire à Elon Musk au niveau là, financier si justement des investisseurs disent, ben, regardez, il est peut-être qu'il est possible d'avoir une entreprise comme ça qui va très bien, de voir son dirigeant fondateur quitter ou entreprendre du recul et amener des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux dirigeants gestionnaires qui vont avoir une façon différente d'amener l'entreprise à un autre niveau.
Ouais, c'est tout à fait
envisageable.
Disons. C'est pas la même phase, c'est pas les mêmes challenges. Pendant très longtemps, Elon Musk, je ne sais pas s'il le fait encore maintenant, mais pendant très longtemps, Elon Musk rencontrait tout employé avant qu'il soit embauché. Donc, tu faisais tout le processus d'entrevue. Mais ta dernière entrevue, c'est avec Elon Musk lui-même. Ça devait être quand même quelque chose. Je regarde aller la compagnie maintenant, puis je me dis, si Elon Musk devrait se passer lui-même en entrevue, je suis pas certain s'il dirait « OK, on l'engage, celui-là ». Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir, spécialisé en actualité économique et technologique, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir, à la prochaine.
Au plaisir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchand d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Passionné d'histoire, il raconte l'information du monde d'hier à aujourd'hui, une page à la fois. Guillaume Lavoie.
Vous le croirez pas, mais il y a une grève à l'UQAM. C'est une nouvelle absolument qui vient de transformer les rapports de l'actualité québécoise. Il y a une grève à l'UQAM. En fait, plutôt, il y en avait une, pour être plus précis, une grève de 5 semaines à la Faculté des sciences de l'éducation. Et pour essayer de comprendre comment ça se fait que c'est pas réglé, que c'est, contrairement à tous les conflits habituellement, que c'est pas la grève qui est pas réglée, c'est le protocole de retour qui pose problème. Mais on va aller en parler avec la personne qui est chargée aux communications à l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, l'ADES, Madame Danaé Simard. Bonjour, Madame Simard.
Bonjour.
Bon, excusez-moi d'avoir trébuché sur votre nom. Alors, expliquez-nous, là, d'abord, pourquoi vous aviez fait cette grève-là? Pourquoi elle a duré 5 semaines? Puis qu'est-ce qui faisait que ça allait bien là, jusqu'à maintenant?
Alors, pourquoi on faisait cette grève-là? On demandait en fait des conditions de stage acceptables pour tous les stagiaires et toutes les stagiaires en enseignement. Ça se déclinait sur différentes revendications telles que le harcèlement, les parents étudiants, la charge de travail, les journées d'absence ainsi que le temps de transport qu'on avait à faire pour aller à nos milieux de stage. Et donc, ça a duré 5 semaines, effectivement, depuis le 13 octobre, on était en grève. Et pourquoi ça a duré aussi longtemps? Eh bien, c'est que pendant tout ce temps et même plusieurs semaines avant, nous étions en négociation active avec la faculté. Et ce n'est que dans les dernières semaines de la grève que la faculté nous a présenté une liste de 30 engagements qui sont vraiment arrivés après 5 semaines de négociations vraiment. Ça a été un peu difficile, ça a été houleux par moments, mais au final, on a réussi à arriver à une entente avec ces engagements-là qui ont satisfait la population étudiante.
Donc, tout le monde était content.
Oui.
Je pose pas de jugement, là. Vous aviez des insatisfactions, des griefs réels. Il y a une grève de 5 semaines qui est quand même assez long. Alors, là-dessus, mon inclinaison première serait de croire que les griefs devraient vraiment être sérieux pour que ça dure 5 semaines.
Mm-hmm.
Tout ça se règle et là, tout le monde est heureux. Mais là, on se parle encore ce matin, ça veut dire qu'il y a encore un problème, là.
C'est ça l'affaire, c'est que là, même nous, il y a eu pendant notre dernière semaine, donc les 15 et 18 novembre dernier, il y a eu des réunions de la commission des études, qui est l'entité à l'UQAM qui décide des modalités de cours globalement. Et donc, cette commission des études-là avait pour mandat de déterminer ça allait être quoi les modalités de retour en classe après la grève.
Oui, est-ce qu'il y a des commissions comme ça, il y en a dans les universités, dans toutes les universités, c'est assez normal. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un principe de base, là. C'est que si on fait, c'est comme d'ailleurs, il y avait en France, le Nicolas Sarkozy avait causé un tollé parce qu'il avait dit, vous savez, quand vous faites la grève, c'est pas vrai que je vais vous redonner votre salaire après. Hein, c'est des choses qu'on considère normales en Amérique du Nord, mais c'était une révolution en France. Mais là, si vous voulez, si vous avez fait la grève, puis je pose pas de jugement sur le caractère noble des motifs, mm-hmm. Bien, vous pouvez pas avoir les crédits du travail qui aurait dû être fait ou des cours qui auraient dû être suivis pendant que vous étiez en grève. Il faut reprendre ce temps-là. Là. Ça, c'est un principe de base.
Oui, puis tout à fait. Je suis complètement d'accord. Il y a une logique derrière ça, mais après, c'est pas ça. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que si on regarde historiquement les luttes de mobilisation étudiante qu'il y a eu à l'UQAM, la grève qu'on a fait ici à la DAISE, c'est même pas une des plus longues. Pourtant, c'est celle qui est le plus punie.
Oui, Mme Simard, je vous arrête là-dessus, juste pour faire remarquer. Il n'y a pas beaucoup d'universités où les étudiants sont capables de dire on a fait une grève de 5 semaines, mais historiquement, vous savez que c'est loin d'être la plus longue. Vous êtes dans un écosystème un peu particulier, il faut le reconnaître.
Mais même si on est dans un écosystème particulier, on reste quand même à l'UQAM, on reste quand même avec cette même administration-là qui, on va se le dire, là, l'UQAM a été fondée sur une grève. L'UQAM existe grâce aux grévistes. L'UQAM, on a obtenu, comme en tant qu'étudiant étudiante, plusieurs choses qui font qu'on a des bonnes conditions maintenant grâce aux grèves, grâce au mouvement étudiant. Et là, cette grève-là, qui tout d'un coup et semble complètement insurmontable, c'est impossible d'offrir des accommodements. Là, ce qu'on demande, c'est pas qu'il y ait complet crédit, que tout le monde ait 100% et qu'on vit dans un monde de licorne. C'est loin
Alors,
de ça.
Alors, qu'est-ce que vous demandez? Demande.
Mais voilà, présentement, il y a 50 personnes qui vont couler leur session. Si on fait rien.
Non, mais ça c'est la conséquence.
Il y a 700 autres personnes qui sont à risque.
Mais j'entends, mais là, Mme Simard, en gros, le principe de la commission des études, c'est de dire, bon, ben, ce que vous avez manqué pendant la grève, il faut le reprendre. Sur ce principe-là, est-ce que vous êtes d'accord?
Mais écoutez, c'est qu'après, c'est sûr que l'association étudiante ne valorise pas et n'encourage pas la reprise des cours, mais si c'est le compromis qu'on doit faire pour éviter que les gens coulent, bien, écoutez, nous, c'est ça notre objectif.
Madame Simard, excusez-moi, je veux revenir, là. C'est pas oui. Le principe. Vous, là, oublions là, la bataille comme telle. Là. À la fin, vous êtes mm-hmm. en train de vous faire former en sciences de l'éducation, oui. Devenir des professionnels. Mm-hmm. Mais pour être capable d'être un professionnel de plein droit, il faut avoir une formation X. Là, il y a eu une pause de 5 semaines pour un conflit. Et là, vous dites, c'est même pas la position de l'association de dire faut qu'on ait les mêmes qualifications que les autres. Ce temps-là doit être repris. Il n'y a pas de négo là-dessus, là.
Non. OK. Ce qui est dit, là, c'est faut faire attention. Après, là, en 2012, quand il y a eu 24 semaines de grève, là, il y a plusieurs personnes qui ont gradué avec un brevet d'enseignement sans faire leur stage.
Oui, je suis pas sûr que les résultats des.
Pendant la COVID,
je suis pas sûr que les résultats scolaires actuels nous permettent de dire que ça a super bien marché, là. Mais en gros.
Ah, mais après, là, de dire est-ce que c'est une situation idéale ou pas, clairement pas. On n'est pas dans une situation qu'on n'est pas dans l'idéal. On n'est clairement pas. À ce stade-là, là, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas plusieurs dizaines de personnes qui retardent leur parcours de 1 an, de payer 1 an de frais scolarité supplémentaires, que ces personnes-là, à cause de cet abandon-là mis à leur échec, n'aient pas accès à la bourse perspective du gouvernement, la bourse de 2 500 $ accordée à tout le monde en enseignement, et c'est aussi de savoir qu'il y aurait possibilité de reprise. Ça, c'est fait par le passé. C'est que maintenant, l'UQAM, pour une raison quelconque, considère que non, on ne peut pas appliquer des mesures d'accommodement qui ont été appliquées par le passé à ce conflit-ci. Pourquoi? Mais écoutez, savoir pourquoi on ne peut pas appliquer les mêmes mesures de reprise qui ont été faites pendant la COVID.
Ben, je peux peut-être vous offrir.
Appliquer les mêmes mesures en 2015.
Ben, Madame Simard, je peux peut-être vous offrir un semblant d'analyse de loin, là. Hein, de minimis mm-hmm. non curat lex. On n'est pas dans le cadre de 2012 où il y a des centaines de milliers d'étudiants qui sont en grève. On n'est pas dans le cadre d'une pandémie. Hein? Vous êtes assez loin de ça. Vous êtes un très, très petit groupe qui avait décidé d'arrêter vos études pendant 5 semaines pour faire une lutte que l'on reconnaît. Mais là, vous ne pouvez pas vous imaginer que vous allez avoir le même genre de règlement. À un moment donné, vous ne pouvez pas avoir le même genre de règlement dans des circonstances vastement différentes.
On sait que les accommodements existent. On sait qu'il est possible de passer une session malgré des absences. On sait que c'est possible de prouver notre compétence en ayant des mentions d'incomplet, en ayant des cours avec des notes succès-échec. il y a plusieurs possibilités qui existent, qui peuvent passer par des reprises, mais qui peuvent aussi simplement éviter des abandons et des mentions d'abandon qui viennent au dossier.
Alors, dites-moi, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Parce que je vous pose la question avec les deux sens de ma question, c'est-à-dire jusqu'où vous êtes prêt à aller dans vos motifs, allez-vous retomber en grève, ou jusqu'où vous êtes prêt à aller pour dire, bon, ben, est-ce qu'on peut reprendre 95% des cours que l'on aurait dû faire ou du temps que l'on aurait dû faire? Ce qu'on demande, c'est un aménagement d'horaire. Il y a les soirs, il y a les fins de semaine. Vous n'allez pas me faire pleurer parce que là, vous allez travailler plus fort. Il y a du rattrapage à faire. Ça, c'est un principe de base. Alors, jusqu'où vous êtes prêt à aller?
Qu'il y ait reprise ou pas, ça va être plus chargé. Et on le sait, c'est déjà le cas. Les ententes d'évaluation sont en pleine renégociation présentement depuis les derniers jours. Et on sait déjà qu'il va y avoir plus de travail. Ça, c'est su. Nous, ce qu'on veut, c'est que personne ne soit laissé derrière. On s'est battu pendant 5 semaines pour assurer aux stagiaires des environnements de stage qui sont sains, qui sont propres et qui sont propices à l'apprentissage. Et donc, on veut que ces personnes-là stagiaires qui sont encore celles qui sont pénalisées aujourd'hui, on veut assurer à ces personnes-là que leur cheminement ne sera pas affecté. Et après, jusqu'où on est prêt à aller? Est-ce qu'on va aller en grève? C'est à voir. On a une assemblée générale d'urgence demain et c'est à ce moment-là qu'on va discuter de la possibilité d'une grève illimitée.
Bon, mais c'est le genre de choses aussi.
D'ailleurs, pour votre information aussi, plusieurs autres associations étudiantes à l'UQAM se sont positionnées et vont faire des assemblées générales jeudi pour potentiellement nous joindre dans notre effort et déclencher une grève générale illimitée.
Voilà peut-être un paquet de choses qui vont être à discuter la prochaine fois au début de la grève pour bien faire la balance entre les avantages et les inconvénients. Danaïs Simard, chargée aux communications à l'Association d'étudiants étudiants de la Faculté de l'éducation de l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au plaisir.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Passionné d'art urbain, de boutons de manchettes et de véloconomie, Guillaume Lavoie n'a pas fini de vous surprendre.
Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue animateur à Cube Radio, Guillaume Lavoie, qui est avec nous. Bon après-midi, Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, 22 novembre aujourd'hui, c'est une journée qui a marqué l'histoire. Ça fait quand même un bon bout de temps, 59 ans. 1963, le 35e président des États-Unis, John F. Kennedy, qui était assassiné. On se rappelle qu'il prenait part à un cortège motorisé dans les rues de Dallas. Qu'est-ce que tu retiens de son legs, de John F. Kennedy, qui n'a pas été là très, très longtemps? Il n'a même pas fait un mandat.
Oui, alors 1000 jours au pouvoir, ou à peu près, plus jeune président élu dans l'histoire des États-Unis. Il n'avait que 46 ans. Et beaucoup de l'attention du 22 novembre, habituellement, est tournée vers qui est-ce qui l'a assassiné, les théories de conspiration, tous les sujets sont possibles, imaginables, sur comment est-ce que ça a pu arriver. Mais autant de temps après, il est quand même surprenant que quelqu'un qui a été dans la chaise de président que 3 ans ait à ce point marqué non seulement sa génération, mais des générations qui l'ont suivi, et pas seulement aux États-Unis, mais partout à travers le monde. Parce que Kennedy nous laisse quelque chose d'incroyablement aspirationnel. Et ça commençait par son discours inaugural, et c'est l'image que l'on voit présentement. Un discours où, et c'est la seule fois dans l'histoire des États-Unis, on a parlé presque exclusivement de politique étrangère. Et lorsqu'on relit ce discours-là, lorsqu'on regarde d'ailleurs les thèmes forts de Kennedy, on pourrait se dire, mais mon Dieu, il a écrit ça pour nous, pour aujourd'hui. Kennedy voyait... que les batailles auxquelles on était confronté étaient essentiellement planétaires, que les valeurs qui l'animaient...
Justement, je t'arrête tout de suite, Guillaume, parce qu'on a isolé un extrait d'une phrase, probablement une des plus célèbres de John F. Ouais. Kennedy. C'est lors de son discours, la journée où il a été assermenté, 20 janvier 1961, on va l'écouter ensemble.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Guillaume, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir?
Ouais, c'est quelque chose d'infiniment grandiose. Hein? C'est cet esprit de sacrifice. C'est cet esprit que nos énergies, nos talents individuels n'ont de sens que s'ils servent une communauté plus grande. Hein? On pourrait dire, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Ne te demande pas ce que ta ville peut faire pour toi, ce que tu peux faire pour ta ville, ta communauté, ta famille, ton groupe. Et il y a quelque chose là, de vouloir servir. Et on pourrait dire que c'est peut-être pas des thèmes qui résonnent aussi fort que ça devrait aujourd'hui. Mais il y avait, chez Kennedy, une idée que les valeurs d'humanisme sont internationales, sont partout, et il faut combattre, sur cette base-là, ceux qui s'y attaquent, en disant, par exemple, les droits humains. C'est un don de Dieu, ou sinon, c'est une condition propre à la nature humaine. Ça ne vient pas ou ça ne dépend pas de la générosité de l'État. Je pourrais vous parler de la Chine, du Qatar, de la Russie. C'était vrai avant, c'est encore aujourd'hui. Donc, il y a un thème presque éternel là-dedans. Et lorsqu'on se retrouve confronté à des choses où, au lieu de se battre un l'autre, par exemple, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la pandémie, la guerre ou la tyrannie, si on prend un déterminant commun de la nature humaine, ce sont quatre ennemis, la tyrannie, la maladie, la peur ou encore la guerre elle-même, bien, face à ça, on est tous dans le même bateau. Et il y a cette grande aventure que Kennedy nous a mis. Mais là où je pense qu'il a le plus marqué, et peut-être où ça manque le plus maintenant, c'est il en parle dans son discours de cette conquête lunaire, où il invite, écoutez, dans les années début 60, il dit « on va envoyer un homme sur la Lune, puis on va le ramener sur la Terre ». C'est complètement fou à l'époque. D'abord, les États-Unis sont complètement en retard. C'est les Russes qui sont en avance. Personne ne pense que c'est possible. Et il va dire quelque chose qui, je pense, doit résonner dans notre tête et dans notre cœur aujourd'hui. Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et c'est uniquement lorsque des nations se confrontent à des défis difficiles qui peuvent se mesurer à eux-mêmes, qui peuvent organiser, orienter le meilleur de leurs énergies, de leurs talents. Et c'est peut-être ça qui nous manque maintenant à Québec, à Ottawa et ailleurs. Quelle est notre grande aventure? Quelle est notre conquête lunaire à nous? Et c'est ça que ça nous prend.
En terminant, en quelques secondes, Guillaume, les théories entourant l'assassinat de Kennedy, à l'effet que le tireur n'aurait pas agi seul, est-ce que, selon toi, c'était les premiers balbutiements des théories conspirationnistes?
Il y a un penchant humain vers les théories conspirationnistes parce que les théories conspirationnistes, au-delà de Kennedy, vous pouvez remonter à la Grèce antique, il y en avait. Ça explique des choses complexes de manière très simple. Et ça crée, par cette réponse simple, du confort. Ça rassure. Ça enlève de l'inquiétude. Alors que ce soit que la Terre était plate, pensez au procès de Galilée, qui expliquait de manière très complexe l'organisation du monde, eh bien, les théories de la conspiration répondent à un besoin humain de fuir ce qui est complexe, de fuir ce qui inquiète. Alors, quand il arrive des choses marquantes comme l'assassinat d'un président, on peut imaginer que là, on a un terreau très fertile à la chose. Et c'est un terreau dans lequel ça pousse encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, encore et toujours. Merci beaucoup, Guillaume. Bon après-midi à toi. À demain.
Au plaisir. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube Radio. Merci à Charlie Marchand, Marianne Bessette pour leur contribution, à Charlotte Duquette également. C'est Guillaume Lavoie qui vous dit merci. Au plaisir.
Cube Radio.